Brillante extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Le Christ veut des titulaires, pas des remplaçants. C'était, chers auditeurs, les mots prononcés par le pape François, souvenez-vous, à la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en 2016. Eh bien, notre invité du jour n'est pas un remplaçant, c'est bien un titulaire de la mission. Nous avons le plaisir de découvrir une figure missionnaire aujourd'hui. Et nous retrouvons le père Vincent Balzan, qui est missionnaire MEP à Taïwan. Bonjour, mon père.
Bonjour.
Alors père, votre parcours vous a mené donc à être missionnaire à Taïwan. Comment vous en êtes arrivé là? Quel est ce parcours de foi?
Devenir missionnaire MEP à Taïwan, c'est déjà devenir prêtre. Avoir un appel de Dieu pour devenir prêtre. Donc il y a eu cet appel de Dieu, je suis rentré au séminaire à 27 ans. Et pourquoi? Relativement tardivement, je travaillais et en fait, dans mon cœur, il y avait un désir de consacrer pour l'Église, désir de servir dans l'Église, de voir la beauté de l'Église et me dire, bah, si le Christ était mon seul patron, on pourrait dire, quelle joie de voir aussi qu'à chaque fois que je servais dans l'Église, dans le scoutisme et dans d'autres choses, j'y trouvais beaucoup de joie. Et pour moi, la réponse évidente, cette manière, c'était plus en tant que personne mariée, c'était en tant que prêtre. Donc il y avait ce désir qui était là.
Le désir de l'Asie en même temps?
Le désir de l'Asie est venu après, en disant quand je suis rentré au séminaire, en fait, ma prière ne pouvait pas se détacher de l'Asie. Quand je voyais dans les écrits les Actes des Apôtres, on voit Paul aller en Asie mineure, ben moi je partais en Asie, en Extrême-Orient. Donc j'ai lutté contre ça en me disant c'est plutôt mon intérêt. J'avais été volontaire MEP auparavant, en 2008, au moment des Jeux Olympiques de Pékin, et donc j'étais en Asie à ce moment-là. Et je me dis, c'est tout simplement cette nostalgie d'avoir été volontaire MEP qui m'a frappé, c'est ce temps de volontariat qui revient dans ma prière au séminaire. Donc j'ai essayé de me battre, puis à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était certainement un désir que le Seigneur me donnait, en plus de ce désir de devenir prêtre, d'être à temps plein pour l'Église.
Et les clés de ce discernement, c'est des discussions avec vos supérieurs de séminaire, c'est une certitude intérieure. Comment ça vient, cette...
La réponse la plus simple, c'est en propédeutique. La propédeutique, c'est comme une grande année de retraite avant d'entrer au séminaire. Je l'ai fait dans le diocèse de Nanterre, je suis du diocèse de Nanterre. Et pendant cette propédeutique, j'ai essayé de me battre contre ce désir d'Asie, de partir en Asie en tant que missionnaire. Donc je me suis dit, dans les journaux, je ne regarde pas d'articles sur la Chine, sur l'Inde, etc., sur l'Asie, j'élimine. Pendant le carême, je me suis dit, surtout, là, je ne veux rien regarder. Donc une partie du carême se passe très bien, on arrive pendant la semaine sainte. Donc nous, les propédeutes, on était 8 propédeutes, on avait une réunion avec les autres, les séminaristes du diocèse, avec notre évêque, et l'évêque avait invité un prêtre de l'église chaldéenne pour faire un partage, et ce prêtre du put en blanc commence à dire que son église, c'était l'église de l'apôtre Thomas qui est allé jusqu'en Chine. Et moi je dis, ça m'arrange pas parce que j'aimerais qu'on ne parle pas de la Chine. Donc ça, c'était pendant la semaine sainte, Pâques arrive, et une semaine après Pâques, nous rentrons en retraite pour faire les exercices de Saint-Ignace de Loyola pendant 30 jours. Moi, je me suis dit, c'est génial, je vais dans un environnement complètement clos, où je vais pouvoir, sans avoir aucune influence, pouvoir choisir ce que le Seigneur veut pour moi. À ce moment-là, pendant les repas, tout est en silence, et pendant les repas, on nous lit des livres.
Donc vous vous dites, c'est bon, on est en silence, rien ne va m'arriver.
Voilà, je
repars. Et pourtant, la suite n'est pas tout à fait...
Eh bien, pendant le repas, il se trouve que le premier livre que l'on lit, c'est l'histoire de Takeshi Nagai, qui est un Japonais devenu chrétien pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je suis furieux, je vais voir mon accompagnateur spirituel et demande si on ne peut pas changer de livre, parce que moi, ça ne m'arrange pas du tout. Ça m'empêche de vraiment être dans un environnement, on pourrait dire, un peu pur et parfait de choix de Dieu. Et puis je me rends compte, sans doute que là il y a une question à affronter, une question à ouvrir. Et donc ça sert à rien de contrôler, mais plutôt laisser la vie agir. Puis après, si c'est pas la vie de Dieu, cette vie elle mourra.
Donc ça c'est la vie de séminaire. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de séminaire? La fraternité, l'esprit de prière, la formation que vous avez reçue, c'est une base pour votre ministère aujourd'hui?
La vie fraternelle, ça c'est certain. Moi j'ai gardé de très bons amis du séminaire. Qui me porte aujourd'hui, cette amitié hyper riche. Il y a aussi l'aspect de la formation, l'aspect intellectuel, bien sûr, c'est passionnant aussi d'étudier notre foi, de se plonger dans l'histoire de la Bible, dans la théologie, de voir comment aussi la philosophie nous donne des outils pour comprendre notre foi. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir que notre foi, c'est pas une question du cœur aussi, mais de la tête, et comment on peut faire un dialogue entre le cœur, la tête et notre contemplation de Dieu. J'étais passionné par ces études. Avant, j'avais fait des études de droit, je n'avais jamais été aussi passionné par ces études. Et je vois que ça nous passionnait tous, parce qu'on pouvait en parler le soir, au déjeuner, on parlait d'autres choses aussi. Mais la question de Dieu nous passionnait, et nos cours nous passionnaient.
Et un philosophe que vous affectionnez particulièrement, celui qui éclaire votre foi, précisément ?
Un philosophe... Alors, je ne sais pas s'il éclaire, un philosophe dont il y a certains aspects de la pensée que j'aime beaucoup... Ça va être, je dois dire, Gabriel Marcel. Je ne l'ai pas énormément étudié, j'ai juste fait un petit exposé quand j'étais dans les études de philosophie. Notamment, ce qui est intéressant chez lui, il a les deux concepts de problème et mystère. Il y a des questions de la vie, il faut accepter que ça soit des mystères. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais avoir une réponse totale, complète. La question de la mort, c'est un mystère. La question de l'origine de la vie, c'est un mystère. La question de la souffrance, c'est un mystère. Si on commence à dire que c'est un problème, ça veut dire qu'on veut avoir une solution maintenant, tout de suite, le plus vite possible. Or, à la souffrance, on ne trouvera pas de solution. On peut dire que ça va être l'antidépresseur, ça peut être la psychanalyse, mais finalement, on n'aura jamais, parce qu'on est devant le mystère de l'homme. Or, un mystère, ça veut dire qu'on contemple. On essaie de regarder, de scruter, d'avoir une réponse qui prendra peut-être des siècles, il ne sera jamais totalement complète.
Et donc ça appelle la grâce, ça appelle Dieu, enfin, quel est le...
Personnellement, ça appelle Dieu, ça, c'est le, si on peut dire ça, ça m'appelle aussi à regarder tout simplement notre histoire humaine, et dire, bien, mais on... parfois nos réponses, on ne les aura pas, ou il faudra peut-être 2000 ans pour avoir une réponse qui va commencer peut-être à germer.
Alors, réponse qui commençait à germer, c'était votre vocation pour l'Asie. Vous avez eu cette expérience donc, de volontariat en Chine. Là aussi, c'est une expérience sur laquelle vous êtes appuyé. Qu'est-ce que vous avez vécu en volontariat? Quelle était votre mission?
Alors, ce volontariat, j'étais à Pékin. Une partie de ce volontariat, c'était d'être avec les francophones. Il y avait une communauté catholique francophone, donc tout simplement d'être présent. Il y avait un groupe scout, du catéchisme, des choses comme ça. Donc, c'est un milieu plutôt d'expatriés. À côté de ça, j'étais aussi dans une association qui était un peu comme l'Arche en France. Donc c'était un foyer de vie, un centre de jour qui accueille des personnes avec handicap mental, donc des gens de la trisomie ou d'autres types d'handicap. Parfois aussi, il y avait certains handicaps physiques, mais d'abord des personnes avec handicap mental. Et donc moi, dedans, je faisais des choses très simples. Je dessinais avec eux, il y avait un peu de danse. Je les regardais danser et puis je faisais un peu de cuisine. On faisait des gâteaux au yaourt. Voilà, on sait apprendre. Au début, je me disais, on va faire un atelier de gâteaux au yaourt, de pâtisserie, on va vendre ces gâteaux. Ça ne marchait pas, ce n'était pas possible. Par contre, on a réussi à faire que, à la fin, les personnes qui faisaient avec moi ces gâteaux, eh bien, ils étaient capables même de voir dans le réfrigérateur qu'est-ce qu'il y a, il manque des choses, on va en s'en faire des courses. Puis après, ils étaient capables eux-mêmes de suivre le processus de réalisation du gâteau au yaourt.
Voilà. Donc vous leur avez donné de votre personne, eux vous ont grandi aussi, vous avez éprouvé des changements au contact de ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut tirer du service en fait, de nos frères?
Moi j'ai médité sur la conception du serviteur inutile, parce que je ne servais à rien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Avant j'étais commercial. Donc le commercial, on a un objectif, il faut le remplir, il y a une certaine efficacité quand on travaille. Et là, le travail que j'avais dans ce centre pour personnes avec handicap n'avait aucune efficacité. Je faisais des dessins avec eux. Ça paraît débile. Un bac plus 5, on va faire des dessins avec des gens, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? 3 heures de dessin, et puis après on va faire autre chose, ou tout simplement on va juste être avec eux sans rien faire de particulier. Pas de projet réalisé, pas de progression possible. À tel point qu'une fois, au bout de 2 heures, je suis rentré chez moi en me disant « Je fais rien, ça sert à rien. » De comprendre en fait l'inutilité pour ces personnes que moi, Vincent, l'étranger qui suis venu de France et qui vient à Pékin pour vivre avec eux, eh bien ça leur apporte une présence. On a un ami étranger qui est là, puis tout simplement ça devient un ami, ça devient Vincent. Et donc cette présence d'amitié, je pense que pour eux, c'est le service le plus important.
C'est la vraie valeur.
C'est la vraie valeur. Au-delà, après, ce qu'on va faire avec eux, ça, c'est pas grave.
Eh bien, merci, Père Vincent Balzan, voilà, missionnaire MEP, des missions étrangères de Paris à Taïwan. Nous écoutons avec vous Contentment, la musique d'un groupe de rock taïwanais.
怎么去拥抱一夏天的风天上的星星小地上的人总是不能懂不能觉得足够
Nous venons d'écouter Contentment, la musique d'un groupe de rock taïwanais, et nous retrouvons le père Vincent Balzan. Il est missionnaire à Taïwan avec les missions étrangères de Paris. Alors, mon père, vous avez vécu cette expérience de volontariat, on en a parlé, vous avez pu éprouver votre vocation au séminaire, dans cette formation, cette vie fraternelle, cette prière. Comme le veut la tradition des missions étrangères de Paris, vous n'avez pas choisi votre pays de mission, vous l'avez reçu. Comment ça s'est passé, cette attente du pays, et puis finalement, la réception de cette mission de l'Église?
Eh bien, nécessairement, quand on n'a pas encore reçu, tant qu'on n'a pas reçu ce pays, on est toujours en train de se dire, où est-ce que je vais être envoyé, qu'est-ce qui ça va se passer, ce pays j'aimerais bien, ce pays je n'aimerais pas. J'étais parti comme séminariste en Inde pendant un mois et demi. On m'avait envoyé là-bas pour découvrir l'église en Inde. Ça m'avait énormément frappé de découvrir cette église, de voir l'aspect mystique des Indiens, qu'ils soient chrétiens ou non. On voit que la présence de Dieu ou du divin est partout. Les gens vivent dans une ambiance mystique. Et d'un autre côté, la nourriture, très rapidement, je n'ai pas pu à la fin, pendant les trois dernières semaines, je me nourrissais de bananes, de noix de cajou et de Coca-Cola. Parce que ce n'était pas possible. Et donc, au retour, moi j'ai dit au responsable des séminaristes, si vous voulez m'envoyer en Inde, il n'y a pas de problème, mais moi, il faudra que je fasse moi-même ma nourriture, parce que pour l'instant, mon expérience, c'est que je ne supporte pas cette nourriture. Ça ne m'était jamais arrivé. Non pas que la nourriture est mauvaise, mais il y a tellement d'épices que je ne retrouve plus les aliments. Enfin, c'était très bon, mais je n'arrivais pas. Donc c'était une expérience difficile. Donc du coup, forcément, on est toujours travaillé, où est-ce qu'on va m'envoyer? Sachant qu'en même temps, en parallèle, on se dit aussi, en tant que séminariste, est-ce que vraiment le Seigneur me veut que je devienne prêtre? Donc aussi, il y a aussi cette question qui est là, cette double question. À l'ordination diaconale, on reçoit notre pays de destination. Je me souviens que la procession d'entrée pour la messe d'ordination diaconale, moi j'ai l'impression de démarrer un chemin de croix, tellement on est pris, sachant qu'on sait qu'on va être ordonné diacre, mais ce qui nous prend d'abord, c'est où est-ce qu'on va être envoyé. À la fin de l'ordination diaconale, devant tout le monde, on nous dit « Vincent, nous t'envoyons dans tel pays ». Nous étions, je crois, quatre diacres, quatre séminaristes à être ordonnés diacres en même temps, donc quatre destinations différentes. Avant la messe, on priait ensemble le milieu du jour et on n'était pas du tout fiers. Donc ça nous prend vraiment en trip.
Vous en parliez entre vous?
Nécessairement, on en parlait entre nous. Par contre, la dernière semaine, on n'avait plus vraiment envie d'en parler parce que ça ne nous appartenait plus. Je me souviens, deux jours avant l'ordination diaconale, le supérieur des MEP, c'était le père Gilles Rétinger à cette époque, Si, bon, vous êtes certainement un peu angoissé par l'attente de la réception de votre pays de mission, mais vous inquiétez pas, on vous connaît, ça fait longtemps qu'on vous regarde, donc on choisit des lieux en fonction de vous. Moi, ça m'avait rassuré.
Donc de voir en même temps l'accompagnement,
oui.
L'accompagnement de l'Église. Et alors, ceux qui reçoivent avec vous ce pays de mission, ce sont vos proches, vos familles. Vous les retrouvez après, ils savent que vous allez partir. Comment ont-ils vécu cette situation? C'est une exigence pour tout le monde. C'est quelque chose qui est vécu tous ensemble. Comment ça se passe?
Eux-mêmes savaient qu'à la fin de l'ordination diaconale, je recevrais ce pays, un pays. Après, on n'a pas vraiment partagé sur cette question-là. C'est plutôt qu'après, à la fin de l'ordination, eh bien, c'était clair. Voilà, tout le monde savait que j'allais être envoyé dans un pays déterminé. Donc, à la fin de la messe, il y a plein de personnes qui disaient « Mais oui, mais j'ai telle personne qui est allée là-bas, ou moi-même j'y suis allé, etc. » C'était, il y a quelque chose qui était... Le contrat était fait, était signé, c'était fermé. On savait que j'étais dans une case et c'était bon.
Donc là, on entre directement dans le bain. Alors, vous partez à Taïwan et vous commencez par 3 ans d'études de la langue. Comment ça se passe cet apprentissage? C'est le retour sur les bancs de l'école et on apprend jour après jour. Qu'est-ce que ça représente et comment est-ce qu'on entre dans cette aventure?
J'ai continué à m'asseoir sur les bancs de l'école. Avant, j'avais terminé un master en théologie biblique et donc dans ce master, il y avait l'apprentissage des langues, de l'hébreu, du grec. Donc, je dirais, j'étais déjà habitué à apprendre les langues. Si ce n'est que là, c'est différent, c'est apprendre une langue pour pouvoir l'utiliser, pour annoncer l'évangile et pour que ça soit ma langue quotidienne. Avec aussi, moi j'avais l'impression d'avoir un peu un compte à rebours qui était mon horloge biologique. Je suis arrivé à Taïwan, j'avais 37 ans. Et qu'on dit que plus on apprend tard une langue, plus c'est difficile. Donc je me suis dit, je ne dois pas perdre de temps parce que je n'ai pas des dizaines d'années devant moi pour m'habituer à cette langue. Et donc ces 3 ans qu'on me donne, il faut que j'en profite tout de suite au maximum.
Et alors là, vous prenez des leçons avec un professeur et ces premières leçons vous rassurent, vous entrez dans l'apprentissage d'une langue difficile. Comment vous avez vécu ces premiers moments?
Ces premières leçons ne me rassurent pas du tout parce que je n'ai pas confiance dans le professeur. Non pas, j'ai pas confiance qu'il soit bon, mais j'ai peur qu'il ne veuille pas être assez rapide pour m'enseigner le chinois, sachant qu'ils ont plus, les professeurs ont plutôt l'habitude d'avoir des expatriés qui sont là pour 3 ans, donc ils désirent plutôt avoir un niveau qui leur permette de commander au restaurant, des choses comme ça. Moi, mon objectif, c'est d'arriver au maximum dans l'apprentissage de la langue et d'arriver, en fait, dans la plus grande maîtrise de la langue.
Auprès des Taïwanais, ce ministère, vous l'avez entamé aussi à côté de l'apprentissage de la langue. Là aussi, c'est une présence, c'est une vie dans une église. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant à Taïwan?
Je logeais dans une paroisse, dont le confrère était curé. Et alors, c'est comme un enfant qui commence à parler, qui commence en même temps à marcher peu à peu et qui progressivement a un univers de plus en plus large. L'apprentissage du chinois, c'est un peu la même expérience. Au début, de toute façon, on peut manger avec les gens, on ne peut pas dire grand-chose. On peut dire c'est bon, c'est pas bon, merci, bonjour, au revoir. Puis après, ça s'élargit. C'est quand même hyper frustrant parce qu'on n'est quand même pas un bébé et on a envie de partager beaucoup plus de choses. Et puis on a beaucoup de questions qui se posent sur la culture, sur des choses comme ça. Mais on ne peut pas avoir de réponse. Ou quand la parent pose la question, mais on comprend pas la réponse. Voilà. Donc il y a beaucoup des... Aussi, on développe peut-être beaucoup plus le sens de l'observation. Pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils mangent telle chose? Pourquoi est-ce qu'ils ont tel comportement? Et puis, comme on n'a pas la possibilité d'étudier, d'avoir un dialogue, ben nécessairement, on va construire des caricatures. Donc, j'ai passé 3 ans à faire des caricatures, à caricaturer les Taïwanais, et puis peu à peu à découvrir en fait ce que j'avais imaginé, c'était faux. C'était une caricature, donc je la détruis, puis j'en construis une autre. Jusqu'à ce que peut-être qu'un jour, je n'ai plus besoin de faire des caricatures, mais de tout simplement de comprendre, d'avoir compris. J'aurais peut-être compris les gens.
Et alors, en attendant, vous vous appuyez aussi sur l'expérience de ceux qui vous précèdent dans la mission. Vous parlez avec ceux qui ont vécu les mêmes difficultés que vous. Ça aussi, ça fait partie de l'aventure.
Il y a quelque chose qui est beau aux missions étrangères, c'est qu'on est présent dans le pays où nous sommes missionnaires, où nous servons depuis des dizaines d'années, même parfois depuis des siècles. À Taïwan, on est là depuis 70 ans. C'est la vie du Taïwan moderne. C'est l'armée nationaliste, le gouvernement nationaliste qui s'est installé à Taïwan. Et les Pères MEP sont là à peu près depuis 70 ans. On a des anciens qui sont morts à Taïwan, on a nos tombes. Donc parfois, quand des gens me disent « Mais d'où es-tu ?», moi, je dis « Je suis du diocèse de Hualien. C'est une ville qui est au bord de la mer, un peu le Arcachon de Taïwan, où là, nos Pères MEP ont commencé à servir. Et donc, c'est notre diocèse d'origine à Taïwan. Donc, je trouve qu'il y a cette histoire, il y a cette ancienneté. Il y a parfois aussi des vieux chrétiens qui ont été baptisés par nos anciens Pères MEP. Donc, en fait, on fait partie déjà de la famille. Du coup, cette approche est intéressante. Et puis, on a des pères qui ont 50 ans, on en a d'autres qui ont 80 ans et donc ont passé la majorité de leur vie maintenant à Taïwan. Donc, il y a tout cet ancrage que l'on a. On n'entre pas dans un monde neuf, mais on découvre qu'en fait, une partie de notre famille, les missions étrangères, c'est devenu aussi ma famille, ma belle famille. Eh bien, je la découvre à Taïwan et j'en fais partie. Je fais partie de cette famille qui est déjà ancrée là, qui a des racines. Donc, j'arrive pas dans un monde totalement nouveau et étranger.
Et alors, vos prédécesseurs ont servi, eux aussi, en connaissant pas encore totalement la langue, la culture, les codes. Ils ont peut-être simplement fait œuvre de charité, vécu à côté de leurs semblables. Vous êtes mis dans leur pain. Qu'est-ce que vous faites précisément de vos journées quand vous apprenez, vous célébrez la messe, vous les accompagnez, vous êtes là, vous... Comment vous faites ?
Ces 3 ans que je viens de vivre, c'est essentiellement ma mission, sont les études. Ça ne veut pas dire que je ne célèbre pas la messe, il y a toute la vie spirituelle, je reste prêtre. Mais l'essentiel, on va dire, de mon ministère, c'est d'entrer dans la langue. Donc très clairement, c'est le matin, j'ai 3 heures de cours, des cours particuliers, et puis l'après-midi, je travaille ces cours.
Donc ça, c'est une préparation ?
C'est une préparation.
Pour
les deux premières années, c'est ça. C'était ça essentiellement mon quotidien. Avec parfois le dimanche, bien là, il y a la vie paroissiale, donc là, c'était l'occasion de pratiquer le chinois. Mais pendant 2 ans, c'était ça, c'était le matin cours, l'après-midi les exercices, puis après on recommence avec l'objectif, c'est d'étudier le plus vite possible les manuels chinois. Ma dernière année, c'était cette année qui vient de se terminer, j'avais moins de cours de chinois, donc c'était plutôt commencer à avoir un ministère tout en ayant le temps de préparer mes homélies, de répéter les oraisons de la messe, de répéter la lecture de l'évangile que j'allais proclamer à la messe, d'enregistrer mes homélies et de les relire avec un professeur. Et puis de prendre aussi des cours en chinois sur la littérature chinoise auxquels je ne comprenais pas beaucoup, mais c'était quand même très intéressant de participer à ces cours. Voilà, donc c'est d'avoir le temps progressivement d'atterrir dans cette mission.
Et donc de cheminer aux côtés du Seigneur comme l'ont fait les saints. Père Vincent, quel est votre saint préféré ? Est-ce qu'il y a une figure de sainteté qui vous inspire particulièrement, qui vous porte encore aujourd'hui à Taïwan ?
Je dirais pas qu'il y a une figure de sainteté qui m'anime, c'est plutôt qu'il y a une communion des saints qui m'anime. Peut-être que je ressens beaucoup plus qu'auparavant le calendrier liturgique que l'on a, et les saints des différentes semaines. Aujourd'hui, vous direz, la figure des saints qui m'anime, bien, c'est celle de Saint Jean-Baptiste. On fête aujourd'hui la nativité de Saint Jean-Baptiste. Je trouve qu'il y a un modèle de prêtre chez Saint Jean-Baptiste, un modèle missionnaire aussi, qui me correspond bien. Saint Jean-Baptiste, son père était prêtre, donc lui aussi est prêtre, prêtre au sens des juifs du second temple, donc du premier siècle, du siècle de Jésus-Christ, donc ceux qui sont dans le temple de Jérusalem et qui rendent pour le peuple un sacrifice à Dieu. Et Jean le Baptiste qui dit souvent « Je suis l'ami de l'époux, celui qui doit amener l'épouse à l'époux et qui doit s'effacer. » Et je trouve que là, il y a une dimension sacerdotale qui est très belle, qui est celui qui doit amener le peuple de Dieu à Dieu et lentement s'effacer, qui doit amener les gens qui ne sont pas chrétiens à rencontrer Dieu, à permettre cette rencontre et à s'effacer. Mais je dirais, il y a une pluralité de saints qui me nourrissent. Et je remarque que depuis que je suis à Taïwan, j'ai besoin de lire la vie des saints, de me nourrir de leur vie. Donc ma principale lecture, c'est lire des vies de saints. En ce moment, je suis en train de lire Saint-Louis. Saint-Louis, le roi de France. Parce que c'est tout simplement un des ouvrages dans notre bibliothèque de MEP de Taïwan. Et donc, je sais pas, j'ai lu depuis le début de l'année une dizaine de vies de saints, et chacun me nourrit de manière différente. Donc, je ne pourrais pas dire aujourd'hui j'ai un seul saint, mais il y a cette communion des saints qui me nourrit, ces figures de sainteté qui nous montrent comment on peut actualiser à chaque époque la parole de Dieu, la rendre vivante, la rendre encore plus charnelle, encore plus concrète.
Eh bien voilà, merci Père Vincent Balzan, voilà, missionnaire MEP à Taïwan, pour votre témoignage. Au revoir Père.
Merci beaucoup, au revoir.
Eh bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.